voix nue. Cette semaine, Virginie Despentes et Élodie Deglaire rencontrent Jean-Claude Fasquelle. Ce soir, il s'agit de les faire connaître ces livres qu'on a aimés.
Jean-Claude Fasquelle, pendant 20 ans, vous travaillez en tandem avec Bernard Privat. Quel personnage était-il, Bernard Privat ?
Ouf, vaste sujet. C'était un... Pour moi, ça a été un ami merveilleux. On a eu des crises, des moments difficiles, des... ce qui est normal quand on cohabite comme ça, mais... Et c'est un homme généreux, qui faisait confiance, qui était un très bon lecteur. Et surtout, un homme qui était très fidèle à la mémoire de son oncle, et qui a su, je pense, rassembler une des équipes les plus rigolotes de l'édition après la guerre.
Mais elle s'est rassemblée comment, cette équipe ? Alors, vous pouvez nous dire un peu, elle était composée de qui et comment est-ce qu'elle est... Parce qu'il y a des gens qui venaient avec vous aussi, ça a été une fusion des deux équipes. Ou pas ?
Ça a été plusieurs des deux équipes. Moi, je suis arrivé tout nu.
D'accord.
Donc, mon équipe, c'est pas grand-chose. Il n'y avait que François Michel qui est parti très vite. C'est-à-dire, l'équipe s'est constituée Bernard. Il l'a constituée. Moi, j'étais dedans sans y être. En ce sens qu'on en parlait avant. Et quand je suis arrivé, Bernard Privat avec. Trouver, grâce à Philippe Aki d'ailleurs, un personnage absolument qui a fait une très belle carrière dans l'édition, Georges Lambrix, qui était à côté de Bernard Privat pour la jeune génération. Et pour la génération plus âgée, il y avait Maurice Chaplan, qui était journaliste littéraire du Figaro littéraire. Et. Ça, c'était l'équipe de départ, si vous voulez. Et puis, Georges Lambrix est parti chez Gallimard. Et on a voulu le remplacer. Et pour diriger la collection qui s'est appelée Les Chemins de l'écriture, il a pris Dominique Fernandez. Ça fait un. Après ça, il a cherché quelqu'un pour s'occuper de la presse. Parce que l'attaché de presse était en même temps une vieille dame qui faisait la fabrication aussi, pour dire l'état des lieux. Et alors, et là, c'est Paulhan qui s'entendait bien avec Bernard Privat, qui lui a confié un poulain du midi qu'il avait rencontré en jouant aux boules, et qui était Yves Berger. Alors, il y avait, en dehors de... comme lieu de liberté à Paris pour les écrivains, pour en dehors des libelles, il y avait La Parisienne, la revue La Parisienne. Et à La Parisienne, il y avait des gens, quelques autres, dont Nourricier. Et voilà, Nourricier avait pu publier deux ou trois romans chez Plon.
Nourricier est arrivé chez Grasset en tant qu'auteur ou en tant qu'éditeur, à ce moment-là ?
En tant que les deux. En tant qu'auteur pour la collection de Fernandez, je crois. Et puis, en tant que conseiller littéraire. Moi, je suis arrivé à ce moment-là. Et puis, par la suite, on a fait grossir un peu le bataillon, mais c'est Françoise Verny.
Françoise Malé-Joris.
Françoise Malé-Joris, oui. Françoise Malé-Joris a été très tôt au comité de lecture. Mais c'était vraiment quelqu'un qui elle venait, elle prenait un manuscrit, elle le lisait, elle renvoyait son compte-rendu. Elle n'était pas agissante dans la... dont vous parlez, le niveau bande de l'équipe, elle n'était pas partie.
Et Françoise Verny, comment était-elle comme jeune éditrice, quand vous l'avez rencontrée ? Drôle ?
Oui. Oh ben c'est une merveille, Françoise Verny. Quand on n'a pas connu travailler avec Françoise Verny, on n'a rien fait dans la vie. C'était un sacré numéro. Non, elle était vraiment incroyablement intelligente. Elle était. Mais, d'abord, elle est entrée chez Grasset. Il y avait chez Grasset une sorte de tradition d'édition religieuse aussi. C'était un petit coin. Il y a toujours eu ces livres-là, de la patristique. Voilà. Seulement, il n'y avait personne pour s'en occuper. Alors, on avait pris Jacques Duquesne, qui était un très bon journaliste chrétien, etc. Et puis, il ne pouvait pas s'en occuper vraiment. Donc, il nous a conseillé une jeune femme qui travaillait à Candide, à l'époque, plus ou moins, qui était Françoise Vernier. Donc, Françoise Vernier est entrée pour diriger une collection sur les pères de l'Église. Voilà. Et elle n'a pas fait ça très longtemps.
Non.
Françoise, c'était pas seulement un bon éditeur qui était capable de flairer les bons coups, etc. etc. C'était quelqu'un qui animait tout le monde. C'est tout le monde. On pouvait pas le temps de dire ouf. Par exemple, j'avais à un moment donné organisé chez moi, une fois par mois, une réunion de chasse. On appelait ça comme ça. Et réunion de chasse, on se retrouvait la fine équipe et on se donnait des objectifs. On disait, voilà, tel auteur, ça on aime, on a envie d'eux, etc. Et on y va.
Et vous les preniez à d'autres éditeurs ?
Ah oui ?
Oui, oui.
Oui, oui, enfin, les prenait, il fallait qu'ils puissent le faire et qu'ils veuillent le faire. Et que...
Pourquoi d'ailleurs ils le faisaient ? Pourquoi ils vous rejoignaient ?
Ben, je ne sais pas. J'imagine parce que c'est une maison qui était très vivante. Et que c'est très difficile de garder les auteurs s'ils sont vraiment attaqués. Parce que chez un éditeur, forcément, au bout d'un moment, il y a une sorte de ronron. Et alors, quand un autre éditeur arrive, tout beau, tout neuf, et puis vous allez voir ce que vous allez voir, etc., etc., c'est difficile. Il faut être très, très attentif à ça. C'est-à-dire, il faut éviter le ronron, déjà.
Vous avez été attentif à ça, vous, ensuite, en tant qu'éditeur, sachant
qu'on pouvait chasser ? Ensuite, avant, après, pendant. Ah oui.
En évitant que vos auteurs se sentent délaissés ou s'ennuient ou...
Dans la mesure du possible, mais malgré tout, il y a des moments où on s'en rend compte. Moi, je me suis rendu compte de ça, que c'était inévitable par des gens qui étaient contrés très très proches de moi, comme Bernard Franck, Faustier ou des gens comme ça. Parce que j'ai trouvé encore des lettres d'eux, c'était des lettres de...
De rupture ?
Non, pas de rupture, mais de désespérés sur le thème « Tu n'as pas fait ce que tu devais faire », je ne sais pas quoi, vous pouvez...
Est-ce que ça veut dire qu'à cette époque, le rapport affectif entre un éditeur et un écrivain était plus prégnant qu'aujourd'hui, peut-être ?
Je pense pas, non.
Bah, on buvait plus, quand même, non ? Avec les auteurs.
Moi, je bois pareil.
Ouais. Mais je veux dire, c'était plus convivial, non, quand même ? C'était...
Oui, sûrement.
C'était très...
Et quel... Mais ça dépend où.
Ça dépendait où, ouais.
Ça dépend où. Je veux dire, il y a des auteurs... Il y a eu un personnage dans l'édition qui a disparu beaucoup trop tôt, le pauvre, c'était René Julliard, que j'aimais beaucoup, qui... Parce qu'en plus, René, il me faisait l'amitié de publier mes dames. Parce que, quand on est éditeur, on fréquente quelquefois des dames qui écrivent. Et si vous voulez, prenez des exemples contemporains, maison comme Albin Michel, par exemple, qui a beaucoup de succès, qui est une maison qui est premier plan. Et ses patrons sont austères, d'une certaine manière. Francis Espenard me raconte toujours que lui... Il reçoit, oui, il a dîné des gens qui des copains, des gens que. Mais qui ne sont pas forcément dans l'édition. Non, on avait la réputation chez Grasset d'être de picoler un petit peu, c'est vrai. Mais bon, mais c'est pas ça qui rend les rapports affectifs plus.
C'est le travail du texte, c'est la confiance.
Mais vous savez, on m'a demandé souvent, quand j'ai quitté la direction de la maison, souvent des pourquoi j'écrivais pas des souvenirs, des mémoires, des choses comme ça. D'abord, mais le côté que déjà il faut savoir écrire, c'est pas donné à tout le monde. Et puis, surtout quand je regarde des dossiers où j'ai des lettres, des choses comme ça, c'était des rapports très intimes avec les auteurs. De confiance, il y a des gens qui montrent des histoires de maisons achetées ou pas, des histoires de rupture sentimentale avec leur partenaire. On ne peut pas raconter tout ça. Ça ne vous appartient pas. Mais je pense que ce genre de choses doit toujours exister, ce genre de rapport. Non ?
Et donc, par exemple, quand vous rencontrez, vous commencez à travailler avec Bernard Privat, vous travaillez avec Françoise Verny, avec Yves Berger, il y a aussi Mathieu Gallet, il y a Françoise Malé-Jaurès qui travaille au comité de lecture. Quels sont les auteurs, à ce moment-là, tous ensemble, que vous allez ramener chez Grasset, que vous allez publier? Quels sont les auteurs pour vous qui ont compté à ce moment-là?
Oh là là.
Eh ouais.
Pour qu'on comprenne un petit peu comment ça se passait dans la maison. Ouais. Bernard Perlin était PDG, moi j'étais directeur général et vice-président de maison. Ce qui fait que j'ai jamais pris un auteur sans prendre l'accord de Bernard Privat. Et lui essayait, non pas de me demander mon accord, mais de mon avis, pour le moins, si vous voulez. Et après, je signais mes contrats avec les auteurs. C'était tout à fait une direction relativement bicéphale. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a eu une continuité. Quand Bernard Privat a abandonné, il n'y a pas eu de...
C'était pas une changement, enfin de rupture.
Voilà. La seule différence, c'était pour moi, c'est que... Je pensais que Bernard Privat resterait comme conseiller à s'occuper de quelques auteurs très proches de lui. Et en fin de compte, je me rends compte que c'est normal. Finalement, il a mal supporté de ne plus avoir la main absolue sur les choses. Et il a préféré arrêter complètement. Donc, je me suis retrouvé moi à reprendre en main. Les auteurs, là, ces auteurs étaient généralement en plus des grands auteurs, importants, comme François de Maillet-Jarrys, dont vous parliez tout à l'heure, ou Edmond Charleroux, ou Christine de Rivoire, des gens comme ça. Parce que pendant cette période bicéphale, moi j'avais une spécialité, si vous voulez, c'est que comme je parle plusieurs langues, je me suis occupé de créer un fonds d'auteurs étrangers chez Grasset, ce que je pouvais faire facilement, puisque personne ne s'en occupait, donc je marchais sur les plates-bandes de personne, j'étais très libre, et ça a été formidable pour moi.
Vous avez, vous avez monté ce fonds parce que vous pensiez à un auteur, ou vous avez monté ce fonds et ensuite vous êtes allé chercher les livres? C'est parti du désir de publier un livre étranger en particulier, de traduire et publier un livre étranger en particulier, ou un auteur?
Non, mais on
publiait
quelques livres étrangers, mais c'était un petit peu...
Comme
ça venait. Et là aussi, on a appliqué le principe de chez recherche, plutôt rechercher les auteurs dont on avait envie.
Mais donc, à l'époque, vous alliez à l'étranger acheter les livres. Comment ça se passait? Parce que on les trouvait à Paris, ou on vous les envoyait, ou comment?
Il y avait toujours des agents.
Des agents, c'était déjà avec des agents.
Envoyait des livres, mais ça, c'était pas tellement une bonne source. Non, c'était les salons du livre à l'étranger, des voyages à New York, des langues moins recherchées que l'anglais, c'était à la limite plus facile. Voilà, c'est comme ça que... Puis les hasards de la vie, par exemple, à Francfort, j'ai fait la connaissance via notre directrice des droits étrangers, la Marie-Hélène Davidio. J'ai fait la connaissance d'Umberto Eco, qui est devenu un ami, un grand auteur de la maison. C'est des rencontres...
Garcia Marquez, par exemple, et c'était...
Au whisky.
Au whisky.
Pour le coup.
Et... Vous l'avez rencontré dans quel... Vous l'avez découvert où il était déjà publié en France?
Il était publié en France, un peu, ses livres de sémiologie.
D'accord.
C'était au seuil. Gabriel Garcia Marquez... Ça s'est passé à Cadaqués. Une maison à Cadaqués, on passe l'été. Carmen Balcells, la grande agente de tous les écrivains sud-américains, dont Gabo, avait aussi une maison là, je connaissais. Et voilà, on a parlé là. Et puis... Un jour, elle m'a convoqué, m'a donné le manuscrit à lire du premier roman de Garcia Marquez qu'on a publié. C'était son roman L'automne du patriarche. Oui, non, mais c'est vrai que il n'y a pas de règle. Comment on attrape les livres, comment il faut...
Mais on sait, quand on attrape un livre, on sent qu'il va peut-être se passer quelque chose d'important, ou on le comprend une fois que ça se passe? Quand on rencontre, par exemple, quand on commence un livre, à lire un auteur comme Garcia Marquez, on sent qu'on a quelque chose qui va compter, ou
oui,
on s'en
rend compte. On n'a pas beaucoup de mérite parce que le monde entier le savait.
Et d'autres fois, vous avez su en recevant le manuscrit, en découvrant l'auteur, qu'il allait se passer quelque chose, ou c'est quelque chose en fait où il faut du temps pour savoir si ça compte ou pas. Ou est-ce que vous avez déjà eu le pressentiment de quelque chose d'important que ça arrivait?
Souvent, oui. Par exemple. Un jour, j'étais à Londres pour Grasset Jeunesse, pour chercher de nouveaux illustrateurs pour Grasset Jeunesse. Et je déjeunais avec un agent littéraire là-bas qui, et de fil en aiguille, il me demande le nom de ma fille, je lui dis qu'elle est en Amérique du Sud, etc. Elle me dit, je reviens de recevoir un manuscrit épatant en Patagonie. Je dis, donne-le-moi. C'est rigolo. Et le soir, dans ma chambre d'hôtel, j'étais là, rien à foutre. Je lis ce manuscrit, je me suis bouleversé, c'était le Chatwin.
Bruce Chatwin.
Et le lendemain, je faisais un contrat, pour pas cher. Personne ne connaissait. Et voilà, c'est... Là, je savais qu'on tenait quelque chose de tout à fait magnifique.
Et d'autres fois, vous avez cru et ça ne s'est pas passé? Des fois, on est déçu. Des fois, on se trompe.
On n'arrête pas de se tromper.
Donc, on ne peut avoir que des bonnes surprises sur ce qui marche.
Ça, je ne suis pas... Non, beaucoup. Et se tromper en même temps, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Je sais pas. Parce qu'on parle toujours de littérature, c'est très bien. Mais enfin, l'édition, c'est un combat qui dépasse la littérature. C'est un combat pour le livre, déjà. Pour l'objet, de nos jours. Le livre se fait agresser dans tous les sens, et dans toutes les époques. Quand la télévision est arrivée, on a dit c'est foutu. Quand l'Internet est arrivé, on a dit c'est foutu. Quand... la lecture sur écran, là, comment ça s'appelle?
Les liseuses.
C'est foutu. Oh, c'est pas foutu, Dieu merci. Mais c'est pas foutu, c'est pas parce que ça se passe comme ça. C'était une vraie bagarre. On a la chance pour le livre d'avoir ce magnifique réseau de libraires qui tient à la force. Vraiment, c'est des gens extrêmement courageux. Bon, les éditeurs aussi, on est un peu courageux quand même. Courageux, je veux dire, on y va, quoi.
Ou fou.
Comment ?
Courageux ou complètement fou ?
Pas complètement fou, mais un peu... Et ça, c'est un combat, il ne faut pas le perdre. C'est un objet magique, le livre. Pratique, ultra pratique. Mais ça dans sa poche, pas cher, et qu'on peut transmettre vraiment, on peut le donner, on peut le prêter, on peut le voler.
Et qu'est-ce qui vous semblerait le plus menaçant aujourd'hui pour le livre ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que en même temps, la technique, qui était très menaçante pour le livre, en même temps a sauvé le livre. C'est-à-dire que, par exemple, les prix de revient avec fabrication, du fait qu'il n'y a plus de composition, puisque les auteurs arrivent avec un...
Une clé.
Comment ?
Une clé, un fichier.
Oui. Ça a diminué les frais considérablement. Et en particulier, le risque pour publier à nouveau un premier roman, ou un premier livre, ou des livres inconnus, les risques sont très faibles, maintenant. Moi, j'ai connu l'époque encore où on composait sur du plomb. Ça coûtait très cher, ça.
Est-ce que dans l'équipe Grasset, avec Yves Berger, Nourricier, Malé-Joris, Verny, vous évidemment, il fallait un consensus pour publier un texte où il suffisait d'un coup de cœur d'un éditeur pour lui faire confiance et faire en sorte qu'un livre soit pris et publié ?
Les deux. Officiellement, il fallait le consensus. En réalité, le consensus était souvent fait d'indifférence. Donc, de toute confiance, au fond, un petit peu. Sauf les cas particuliers, mais qui étaient fréquents. Et puis, c'était plus facile du temps où Bernard Privat était PDG, parce que quand ça m'arrangeait, je cherchais un arbitrage. Bernard aussi. Quand je me suis trouvé tout seul, je fournissais les arbitrages. Non. Enfin, il y a une nécessité du consensuel quand même, c'est que c'est au moment de la sortie du livre, il faut que les gens soient derrière le bouquin. Et vraiment, Grasset était ainsi fait que si... S'il n'y avait pas deux, trois éditeurs derrière un livre, ça n'allait pas marcher.
En quoi ça consistait d'être derrière un livre, justement, pour deux ou trois éditeurs ? C'était quoi être derrière un livre ? Comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte que...
Le faire lire. Le faire lire. Le faire lire à des critiques, le faire lire à des jurés de prix littéraires, le faire lire à des libraires... Faire des déplacements en province pour parler du livre dans des réunions de libraires. On faisait ça, je crois qu'on continue d'ailleurs. Les réunions de province où on invite une cinquantaine de libraires de la région à déjeuner avec les auteurs qui parlent, qui racontent leurs bouquins, etc. Là, il faut que les éditeurs soient là.
Combien de livres sortent à cette époque chez Grasset dans l'année ?
Écoutez, moi, je ne sais pas. Il me semble que c'était à peu près 130. Je pense. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je sais que c'est ce que je souhaitais.
Alors, c'est vrai.
Pas forcément. We'll be right back.
retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Despentes et Élodie de Glaire avec Jean-Claude Fasquel. À voix nue, réalisation Julie Béressy, prise de son Clémence Bonfils, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.